talmudique.
Semble-t-il précisément, je trouve dans l'étude du judaïsme et précisément dans l'étude des textes, je trouve la possibilité d'un renouvellement constant. Depuis toujours d'ailleurs, dans le judaïsme, les textes ont été confrontés toujours à de nouvelles réalités, mais cette confrontation offre une telle richesse d'approfondissement qui donne une véritable joie à l'étude, et cette joie de l'étude elle-même donne un dynamisme de vie.
Michel Valency, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre la voix de Benno Gross, qui était interviewé ici par Antoine Mercier en mai 2014. Et j'ai envie de dire, quelle fougue, quelle joie, quel plaisir de vivre sent-on dans cette parole, quelle générosité, quelle gratitude et quel engagement aussi. Benjamin Gross, qui nous a quittés voilà presque un an, le 3 août 2015, à l'âge de 90 ans, nous tenions à lui rendre hommage pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est l'un des plus importants intellectuels du judaïsme du XXe siècle, qui, comme on va le voir, par son enseignement et ses écrits fort nombreux, en a transmis les valeurs et a permis à toute une génération d'en découvrir la philosophie et les philosophes, mais aussi parce qu'il est, à notre avis, un modèle de ce judaïsme français dont l'israélitisme, évoqué la semaine dernière, est extrêmement prégnant. Et même lorsqu'il s'installa en Israël, dès la fin des années 60, et qu'il devint professeur de philosophie à l'université de Bar-Ilan, dont il fut aussi le doyen de la faculté des humanités, ce sont ces valeurs qu'il apporta en Israël, une volonté constante de tisser la culture des arts et des lettres avec celle des textes de la tradition. Il fut toujours une sorte d'ambassadeur de cet esprit français, signifiant ouverture, respect, liberté et laïcité. Et je pense à un texte qu'il a écrit concernant la religion juive. Il dit « Je l'ai quelquefois écrit et je pense toujours encore qu'il n'existe pas de religion juive à vrai parler. Il existe une façon juive de vivre, ce qui n'est pas la même chose. Je me suis souvent demandé si l'attitude religieuse n'était pas une attitude de lâcheté et de refus, repousser en soi l'homme. » Et cela est possible. C'est pourquoi je ne peux pas y adhérer entièrement et que j'aime la vie plus libre et sans contrainte. Mais je sais, ajoute-t-il, d'autre part, qu'il ne faut pas exagérer dans ce sens. Alors, c'est un acteur concret de la vie avec un souci permanent de l'éducation et de la transmission. Il fut un grand fondateur et directeur d'école. Je pense à l'école Akiba à Strasbourg. Et depuis plus d'un demi-siècle, ce sont plusieurs milliers d'élèves qui ont grandi dans l'esprit qu'il a insufflé. Et je repense à ce beau message qu'il me laissa sur mon répondeur, voilà plus d'un an, quand, au tout dernier moment, il ne put se rendre à la maison de la radio pour parler de son tout dernier livre sur le Shabbat. Il tenait à remercier toute l'équipe de Talmudique et le rabbin Boissière qui avait accepté, au pied levé, de venir parler de son ouvrage. Et Michel Valency, Benno Gross a beaucoup publié, et vous êtes son dernier éditeur aux éditions de l'Éclat. Comment s'est faite cette rencontre humaine, intellectuelle et éditoriale?
La rencontre s'est faite de manière assez simple. C'est vrai que je connaissais les écrits de Benno Gross, je ne l'avais jamais rencontré, et il a eu vent de cette petite maison d'édition courageuse, comme on dit, qui essayait tant bien que mal de montrer un certain nombre de textes, et il nous a adressé un manuscrit tout simplement de la manière la plus simple possible, en nous demandant si on était intéressé à le publier. Il s'agissait de la traduction du Souffle de vie, Ruach Chaim, de Rabbi Chaim de Volozhin, dont il avait publié dans les années 80 le grand texte, L'âme de la vie, préfacé par Lévinas, et dans la collection que dirigeait Charles Mopsik aux éditions Verdier. Mopsik a disparu, comme on sait malheureusement, en 2003, et cette collection était restée un peu orpheline. Et peut-être que Benno Gross a jugé qu'une certaine filiation pouvait se faire entre ce travail qui avait été fait et celui qu'on essaye de mener aux éditions de l'Éclat. Et c'est comme ça qu'on a reçu ce manuscrit, qui est un manuscrit extraordinaire, parce que autant L'âme de la vie est un texte dense, difficile, terrible, autant Le souffle de vie est un texte, c'est un commentaire des Pirkei Avot, et c'est un commentaire qui se voulait, enfin le terme est peut-être pas bien choisi, mais qui se voulait grand public. En fait, ce sont des cours que Rabbi Chaim de Volozhine donnait pour la communauté. Et c'était des cours qui étaient adressés aux femmes, aux enfants, à toute la communauté. Et il y avait cette volonté chez lui de transmettre la parole des textes, mais dans un discours direct, dans un discours de vie. Et je crois que c'est vrai que ce terme « vie est véritablement celui qui s'attache le plus à la personnalité de Benno Gross. Le deuxième ouvrage qu'on a publié de lui s'appelait justement « Choisir la vie ». Et je crois que c'est un choix qu'il avait fait d'emblée, enfin depuis ses premières grandes décisions avant-guerre.
Oui, alors c'est un mot effectivement, et on l'entendait dans l'extrait, on sent le souffle, le bonheur, le plaisir de vivre. Mmh. Et je crois que c'est pour cela que ça a été un grand éducateur, parce que il a pas simplement transmis des idées, mais le souffle, la question de l'éducation est centrale, constante dans sa vie et dans son œuvre. Il est créateur d'école, on l'a dit, enseignant, écrivain, traducteur, en témoigne le titre de nombre de ses articles, je pense à Éducation et humanisme juif, jusqu'au dernier de ses ouvrages parus, Le souffle de vie dont vous venez de parler. Mmh. Alors, Benno Gross, éducateur.
Ben, c'est vrai que c'est absolument central à la fois dans ses choix de vie comme vous l'avez évoqué, mais aussi dans sa pensée. Enfin, je veux dire qu'il y a cette idée de l'éducation comme sortie de soi, enfin ex ducere, conduire hors de soi. Et c'est vrai qu'il a toujours pensé l'éducation comme un rapport à l'autre, enfin comme un aller vers l'autre, avec une générosité, parce que ça aussi c'est un des maîtres mots qui pourrait le définir, générosité qui est un des trois fondements du monde, hein, comme le dit la Mishnah. Et cette éducation se faisait toujours dans un dialogue, enfin dans la discussion et dans l'humilité par rapport à ce qui est enseigné. Je pourrais citer un court passage donc de la présentation du souffle de vie. Dans ce combat pour le dégagement du sens, la rencontre avec l'autre, collègue et disciple, s'avère indispensable. Elle confère au choc des esprits un rôle essentiel pour la transmission du savoir et souligne la confiance dans l'intelligence de l'interlocuteur. De là, la recommandation de ne point se contenter d'une formation autodidacte, de rechercher un maître et de toujours confronter ses opinions avec celles d'autrui. De là également le devoir pour le maître d'éviter toute passivité intellectuelle, d'encourager le questionnement de l'élève et de l'inciter à ne reconnaître d'autre autorité que celle de la vérité. Il est interdit à un élève d'accepter l'enseignement du maître aussi longtemps que sa raison s'y oppose, écrit Rabbi Chaim de Volozhine. D'ailleurs, il arrive que la vérité soit du côté de l'élève. Et donc, il y a cette relation entre l'éducateur et celui qui reçoit cet enseignement, qui est une relation toujours d'échange et une relation, je dirais, presque dialectique. Enfin, c'est un terme sur lequel il revient d'ailleurs beaucoup dans sa pensée,
oui,
comme un autre grand penseur du judaïsme qui est Gershom Scholem, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, et aussi à partir de la pensée qu'il a héritée de son maître André Néer, qui a écrit sur le Maharal de Prague. Il a fait d'ailleurs sa thèse, Benno Gross a fait sa thèse sur le Maharal de Prague, et la manière dont André Néer a transmis la pensée du Maharal de Prague, c'est une pensée dialectique, justement, le terme de dialectique est extrêmement présent. Alors, le rapport maître à disciple, mais toujours dans l'humilité et puis un petit peu dans la dérision de soi. Je pense à un texte qu'il écrit dans ce livre « Choisir la vie ». Il dit « Demain soir, réunion sur le réarmement allemand. Je dois faire un petit laïus sur ce sujet en même temps que Néer, justement. Je me demande ce qui va sortir de cette séance et je n'arrive jamais à me prendre au sérieux dans toutes ces sortes de réunions. Je ris intérieurement de moi. Cela m'arrivait aussi dans les premiers temps où on m'appelait monsieur le directeur. J'avais peine à ne pas éclater de rire. Je n'aime pas les gens qui se prennent trop au sérieux, mais je remarquais qu'il était dangereux quelquefois de ne pas le faire dans certaines circonstances. »
Oui, je crois que le rire de Benno Gross, c'est quelque chose que, enfin, dont tous ceux qui l'ont connu ou croisé peuvent s'en souvenir. Il était, enfin, c'était un rire communicatif, généreux, encore une fois. Et il était accompagné toujours de ce regard qui, effectivement, était une perpétuelle remise en question de sa parole. Bon, vous avez cité ce texte en ouverture sur sa méfiance à l'idée d'une religion juive. Je crois qu'il pouvait aussi rire d'une formule telle que celle-là, mais il l'accompagnait toujours d'un. Enfin, je crois que ce qui était central chez lui, c'était bon, je me répète, la vie et pas seulement la vie comme biologique, si vous voulez, mais la vie sociale. Enfin, je veux dire, il y avait quelque chose de l'ordre de l'engagement et de l'engagement dans une société. Ce qui était pour lui la chose primordiale. Et je crois que ça, là aussi, il rejoint Scholem, alors qu'a priori, on pourrait considérer que ce sont deux personnalités.
Parlez-nous plus de ce rapport tout de suite de Scholem avec Benno Gross, parce que peut-être que.
Mais ça, c'est un rapport, c'est un rapport qu'on peut faire au fur et à mesure des lectures. Je crois qu'il y a chez Scholem cette idée de. Il y a un texte de Scholem qui est assez ancien, des années 60, sur la mystique et le monde moderne, où Scholem dit que la recherche mystique aujourd'hui, c'est une recherche qui ne peut s'ancrer que dans la vie sociale. C'est très très curieux comme texte. Je peux vous le lire si vous voulez.
Oui.
Scholem dit qu'il dit « J'ose affirmer que la plus grande partie de notre peuple ne possède plus cette foi en la révélation. Et les choses étant ce qu'elles sont, voici la question qui se pose. Sur quelle base assez solide un peuple pourrait-il s'appuyer ?» afin de pouvoir continuer de percevoir que la richesse infinie du Verbe divin permet de trouver sans cesse des possibilités d'interprétation nouvelles. Et Scholem continue, c'est là qu'est la pierre d'achoppement. Deux points, c'est lorsque l'on recherche comme aujourd'hui une mystique juive ayant une signification pour la vie sociale. Et je crois que cet ancrage, si vous voulez, de la mystique et de la spiritualité dans la vie sociale est quelque chose qu'il avait en commun avec les travaux et l'engagement de Benno Gross.
Oui, alors qu'on retrouve d'ailleurs on pourrait presque dire que c'est une pensée chassidique, voire néo-chassidique, parce que le chassidisme, c'est cette manière de repenser les concepts de la tradition mystique, de Luria par exemple, et de les traduire de manière existentielle. Par exemple, le Tzimtzum, qui est le retrait divin pour permettre la création du monde, devient son propre retrait, sa propre humilité, sa propre kénose, si on peut dire.
Exactement, oui.
Et là, on le trouve très fortement mis en œuvre par Benno Gross, par son humilité, par exemple. Alors, il fut, on vient de parler de relation maître à disciple, l'importance de cette relation dialectique, dialogale entre l'enseignant et l'enseigné, la liberté de l'enseigné, de l'élève, jusqu'à la vérité du côté de l'élève. Donc, il fut un grand passeur. Et comme je le disais précédemment, avec son maître André Néer, il nous a fait découvrir la pensée du Maharal de Prague. Il a fait connaître l'œuvre de Chaim de Volozhin, dont vous venez de parler. Il faut peut-être préciser que Rabbi Chaim de Volozhin est le fondateur de tout un courant lituanien issu du Gaon de Vilna, qui mettait l'étude au centre de la vie juive. C'est-à-dire la plus haute valeur, c'est que l'étude... c'est sur l'étude que repose le monde. Et il nous a fait découvrir aussi Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, qui est de la même
Exactement,
lignée,
oui.
puisque un des ancêtres de Rav Soloveitchik avait épousé la fille de Rabbi Chaim de Volozhin. Rabbi Chaim de Volozhin, on est au milieu du 19e siècle. Et il nous fait découvrir aussi Rabbi Yoshua Heschel, l'œuvre du Rav Kook, l'œuvre de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch et d'André Néer, son maître, et aussi de Léon Ashkenazi. Il y a des textes sur Léon Ashkenazi, des penseurs et des maîtres du judaïsme qui ont tous en commun de proposer un judaïsme innovant, dialectique, qui tient compte à la fois de la halakha, de la loi, et de la Haggadah, et qui, un judaïsme sans raidissement identitaire et sans dissolution dans l'universalisme. Un judaïsme toujours du côté du vivant. Michel Valensi.
Oui, c'est un. On pourrait définir Benno Gross aussi comme un homme d'action. Enfin, je crois que c'est dans le faire que se déploie et se développe la pensée. Cette idée de la relation de la pensée à l'action est quelque chose d'essentiel chez lui. C'est aussi, je crois, enfin, c'est aussi un homme de, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, d'engagement. Enfin, je veux dire que sa réflexion sur le Shabbat, on en parlera peut-être plus profondément tout à l'heure, mais sa réflexion sur le Shabbat est enfin, à des échos qui sont, enfin, qui résonnent de manière, enfin, qui pourraient résonner de manière tout à fait étrange aujourd'hui, dans un monde où la question du travail est reposée. On se demande si finalement ce que demandent les gens qui sont en ce moment dans la rue pour la question de la loi travail ne demande pas finalement un Shabbat, c'est-à-dire un temps de travail qui puisse inclure cette notion du repos, du retour sur soi, de la réflexion, qui à la fois valorise le travail, mais ce travail enrichi par la notion de repos. Bon, c'est là toute cette,
enfin,
cette
dialectique. On souligne voilà la dialectique, c'est-à-dire que travail, c'est absolument passionnant. Mmh. On va en reparler après. Et donc un homme d'action, un homme engagé, un homme vaillant. J'ai presque l'impression qu'on a ce terme. C'est une expression qu'il a utilisée souvent, Gibor.
Oui. Oui, je crois qu'il a, enfin, en tout cas, tous ceux qui l'ont rencontré et connu peuvent garder cette image de cet homme toujours fort et toujours avec un verbe haut et généreux.
Vous avez proposé, Michel Valency, de faire cette émission d'hommage à Beno Gross. Nous avons cherché ensemble quelle illustration sonore il serait intéressant et important d'écouter. Vous avez alors proposé de demander à son épouse, Myriam, que nous saluons d'ailleurs tous les deux très chaleureusement, quelle musique Beno Gross aimait entendre. Musique classique et les chants de Shlomo Carlebach fut la réponse, et en particulier les chants du Shabbat. Pour le classique, j'ai choisi Mozart, qui, le 3 novembre 1778, quitte Strasbourg pour Mannheim en emportant dans ses bagages un air populaire alsacien qui deviendra le thème du dernier mouvement de son 3e concerto pour violon, dit Strasburger, que nous sommes en train d'entendre, un clin d'œil à cette belle ville de Strasbourg dont Beno Gross fut l'ambassadeur toute sa vie. Et les chants de Shlomo Carlebach, et en particulier les chants du Shabbat, que nous avons entendus, lui étaient aussi particulièrement chers, sans doute parce que cela était toujours un lien avec les mouvements de jeunesse en qui il voyait la force vivante des nouvelles générations. On retrouve, Michel Valency, la position dialectique qui est au cœur de son œuvre et de son existence, et on retrouve aussi ce thème central que vous avez évoqué avant cette musique, le thème du Shabbat, dans lequel il a peut-être le plus exprimé son côté révolutionnaire, sa façon à lui de penser avec le judaïsme et non seulement de penser le judaïsme. Michel Valency.
Oui, sa vocation était de penser le monde avec le judaïsme, comme il le dit tout au long de son œuvre. Et la réflexion sur le Shabbat est une réflexion qui l'a accompagné, je crois, tout au long de son existence. Shabbat qu'il a toujours respecté depuis la plus tendre enfance. Enfin, il raconte dans un petit livre ses souvenirs d'enfance dans sa famille strasbourgeoise et dans l'exil à Limoges. à Lyon où il rencontre Ranéer, etc. Oui, le Shabbat est vraiment un pivot de, à la fois de sa pensée et bien entendu aussi un pivot du judaïsme. Ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. C'est curieux parce que ce livre qu'il nous a proposé donc sur le Shabbat est arrivé de manière tout à fait étonnante, alors que nous avions décidé aux éditions de l'Éclat de prendre une année sabbatique pour les 30 ans de notre maison d'édition. Il était question de ne publier aucun livre et de ne republier que des ouvrages de notre fonds. On en avait parlé dans cette émission, enfin dans votre émission, et je vous en remercie. Et puis est arrivé ce manuscrit de Benno Gross qui m'avait téléphoné en me disant « Voilà, je suis en train de terminer un manuscrit sur le Shabbat, est-ce que ça peut vous intéresser ?» C'était comme une sorte de signe, comme on dit, en plus dans une année de Shemitah, donc d'année de
sabbatique.
Et ce texte est vraiment, enfin, je veux dire, très, enfin, je crois d'une grande force et d'une grande intelligence parce qu'il est, enfin, il est ouvert à toutes les possibilités du Shabbat. Shabbat étant ce rendez-vous hebdomadaire avec un temps qui sera tout entier Shabbat. Enfin, cette porte entrouverte, ne serait-ce que le temps d'une journée sur un temps messianique, sur un temps de Shabbat, des Shabbats, comme on dit.
Retour sur soi, retour au temps lent, au temps de la prière au sens de méditation sur soi, retour au moment social que vous avez évoqué, important. Alors, social de la communauté, social de la famille, social des amis, parce que c'est le temps des repas, c'est très important, où on invite, au point que parfois, dans le langage courant aujourd'hui, mes amis, pour parler du repas du vendredi soir, elles l'appellent le Shabbat. Alors, on se fait un petit Shabbat, c'est-à-dire on se fait un repas du vendredi soir, vous voyez. Et donc, il y a quelque chose de cette socialité mystique presque dans laquelle il rencontre Scholem que vous avez évoqué.
Oui, Michel, effectivement, Valenci. il y a cette dimension-là et une dimension, et c'est là aussi où je crois que le livre est important. C'est quelque chose sur lequel il était déjà revenu dans Choisir la vie, mais qui était une critique de notre société contemporaine, une critique du tout économique. Le Shabbat est une suspension dans le tout économique, est à la fois une suspension et à la fois la possibilité justement d'y renoncer d'une certaine manière, puisque on ne doit, non seulement on ne doit pas travailler, mais on ne doit pas faire travailler ni ses animaux ni ses esclaves. Selon la forme du texte biblique. Oui, je ne parle pas des esclaves d'aujourd'hui. Mais il y a cette dimension de la critique sociale qui est, je crois, assez forte dans la pensée de Benno Gross, et qui a pris une forme remplie de cette spiritualité et de cette foi inébranlable dont il était quand même plein. Ça, il faut le dire. Même s'il pense que la religion juive n'est peut-être pas la formule juste, je crois qu'il était rempli et nourri de cette foi inébranlable.
Oui, mais il s'en explique, il dit c'est une confiance en la vie aussi. Enfin, je pense que c'était quelqu'un de croyant, un petit peu comme le Rav Soloveitchik, dont il a traduit l'œuvre, le croyant solitaire. Et effectivement, dans ce livre, Choisir la vie, le sous-titre est important, c'est le judaïsme à l'épreuve du monde. Le premier article s'appelle « Crise et éthique, les limites de la rationalité ». C'est là, je pense, où il veut repenser ce tout économique dont vous parlez par rapport au Shabbat. C'est là son côté, ce que vous appelez son côté révolutionnaire.
Oui, bon, le terme est peut-être pas adapté, mais je crois que c'est un penseur de la critique sociale, alors que a priori, on l'aurait pas forcément retrouvé dans cette catégorie, mais je crois que c'est quelqu'un qui a fait exploser les catégories dans sa relation. Enfin, j'ai pu le voir, parler à des jeunes étudiants ou à des et c'est vrai qu'il a une, enfin, il avait cette relation à la jeunesse qui était très très étonnante, quoi. Vous vouliez qu'on cite un extrait de l'entretien avec Antoine Mercier qu'il avait donné sur Academ où il citait une phrase du Maharal de Prague
de Rabbi Nachman de Breslav
Rabbi Nachman disait qu'il est interdit d'être vieux. Ce qui est formidable avec Benno Gross, c'est qu'il a porté cette jeunesse en plein dans son âge mûr. C'est aussi ça qui était très très magnifique chez lui, quoi.
On l'a entendu Dans l'extrait du début, Benno Gross fut et reste un homme d'une grande humanité, d'une grande générosité, d'une grande intégrité, un amoureux de la vie, on le souligne en permanence dans notre entretien ici, mais pas seulement. Nous avons été très nombreux à être étonnés de découvrir dans ce livre, Choisir la vie, un passage, c'est le dernier passage du livre, qui s'appelle « C'est l'être à ma fiancée ». Et dont j'aimerais que vous nous lisiez un passage, Michel Valency.
La lettre est datée du 25 octobre 1950. Plus je suis actif ici et plus intensément je pense à toi. Et d'ailleurs, l'inverse est tout aussi vrai. Plus je t'aime et mieux je fais ce que j'ai à faire. Car alors, vivre a un sens et tout ce que je fais a un sens, c'est pour toi. C'est pour t'aimer que je me réveille et dans tout ce que je fais, je te retrouve. Et cela, ma Myriam, c'est à toi que je le dois. C'est toi qui me le donnes. Alors, ce choix de lettres, qui fait partie de la dernière section du livre qu'on avait intitulé « Signature », ce sont donc un ensemble de lettres que Benno Gross écrivait à sa fiancée Myriam. Et la partie contient également un certain nombre de lettres de Myriam à Benno Gross. Et c'est par ce choix de lettres qu'il avait voulu terminer le volume Choisir la vie. Je dois dire que quand j'ai reçu le manuscrit, j'étais à la fois bouleversé, à la fois enthousiaste et heureux de cette conclusion du volume, qui se terminait sur l'amour, qui se terminait sur ce qui a été pour lui, je crois, essentiel à la fois. À la fois dans sa vie conjugale et même dans sa vie de professeur. Enfin, je crois qu'il est porté par effectivement un amour. Il y a une phrase dans la présentation de cette correspondance où il dit « La relation conjugale, corps et âme, est l'exemple paradigmatique de l'acceptation de la différence comme source créative de vie et de renouvellement, un témoignage vivant de la nécessité du dialogue pour conforter l'être. »
Oui, on a l'impression... Parce qu'on pourrait être étonné, si on calcule, il a été marié 65 ans. Je veux dire, c'est ce qui est énorme. Et j'ai l'impression que cet amour, la vigueur de cet amour, le bonheur qui l'a porté jusqu'au bout n'a jamais failli. On le sent quand il parle. Et j'ai compris en fait que en lisant cette introduction à ces lettres, qu'il considérait que ça pouvait être un modèle. Il le dit, c'est une vie personnelle, une vie concrète peut être un modèle. Et là, on retrouve l'homme à la fois l'homme d'action et l'homme qui a confiance dans l'existence. Michel Valency.
Oui, c'est vrai. Et un autre élément est que cette correspondance, avait aussi, enfin, voulait aussi participer d'une discussion qui, à l'époque, était, on a publié le livre en 2014 ou 2013, je sais plus, oui, je crois 2014. Donc, à un moment où la question du mariage était débattue en France avec les discussions que l'on sait et qui étaient, enfin, où tout était mélangé, tout était confondu, cette volonté d'affirmer cette relation conjugale homme-femme de la part de Benno était pas du tout une position rétrograde par rapport à ce qui pouvait se dire ici en France. C'était une allusion à la dimension mystique de l'alliance du masculin et du féminin. Je crois qu'il le dit aussi dans sa présentation. Et à la force qui peut surgir justement de cette rencontre du masculin et du féminin, qui est l'unité de l'homme, enfin qui est l'unité de l'humain, enfin de l'être humain parlant, si l'on peut dire, hein, de l'animal humain parlant. Et je crois qu'il tenait à participer avec ce document d'un débat qui était, qui partait dans tous les sens et qui n'a abouti à pas grand-chose finalement, sinon à encore une fois diviser une population.
Merci Michel Valency pour cette conversation d'hommage.
Merci à vous.
L'œuvre de Benno Gross fait partie de ces œuvres dont on dit qu'elles sont comme la braise, toujours chaude et rougeoyante, en attente du souffle du lecteur, pour reprendre une image de Rabbi Chaim de Vologine commentant les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, dont vous avez parlé, que Benno Gross a d'ailleurs traduit et commenté dans les dernières années de sa vie. Je suis heureux qu'au terme d'une année, pendant laquelle nous avons voulu réfléchir comment penser et avec qui penser, que nous ayons pu saluer la mémoire de ce très grand maître et donner envie de le lire, de le relire, de l'écouter et partager sa confiance dans la vie, l'étude, la transmission et l'amitié. Et j'ai des difficultés à quitter ce livre et ces lettres dont, que nous venons d'évoquer. Je voudrais en lire un dernier passage. « Ah, que mon cœur éclate vers toi. Tu es pour moi unique au monde. Nous nous sommes apprivoisés. Chaque jour de notre vie, nous continuerons à nous apprivoiser et à faire grandir l'arbre que nous allons planter, à embellir la maison que nous nous proposons de bâtir. Je te quitte simplement en te disant de passer au milieu de ta famille un Shabbat joyeux et heureux, de cette joie de l'attente du bonheur que je veux t'apporter demain et chaque jour à nouveau. Que le monde entier, à travers moi, s'ouvre à toi dans la beauté du jour naissant et que toujours, oui toujours, tu sois heureuse d'un jour nouveau parce que lundi prochain, tu auras vu naître l'aube naissant en sachant que ton Benno t'aime. » Merci encore Michel Valensi.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Manuel Couturier, à la réalisation d'Annie Journeau. Vous retrouverez toutes les indications bibliographiques de l'œuvre de Benno Gross sur le site de l'émission. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.